Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, car c'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télévisions bien sûr. Le podcast des maternelles. Tiens, déjà vous rappelez, si vous ne l'avez pas encore écouté, samedi dernier on a mis un podcast inédit du podcast des maternelles. C'est un podcast sur la procréation médicalement assistée, la PMA, où j'ai eu la chance de pouvoir passer avec Alexandre Ferreira, le réalisateur, une journée entière dans le centre de PMA de l'hôpital Antoine Béclair, ce qui nous permet de tout comprendre. Donc c'est vraiment un épisode particulier, je pense, à écouter, en particulier si vous êtes concerné par ce sujet de la PMA ou si vous avez des proches concernés par le sujet. En 50 minutes, on comprend un petit peu comment s'organise la PMA en France. Ceci étant dit, notre épisode du jour n'a rien à voir, puisqu'aujourd'hui, on va entendre un témoignage assez exceptionnel de Marine. Marine qui a eu, et on va le dire comme ça, 3 bébés surprises alors qu'elle n'avait pas ses règles depuis l'âge de ses 16 ans. Comment peut-on avoir des bébés sans avoir ses règles? Vous allez tout comprendre grâce à Marine et après, avec les explications du docteur Maude Pasquier, qui est endocrinologue et médecin de la reproduction. C'est parti.
Bonjour Marine.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans et depuis vos 16 ans, vous n'avez jamais eu vos règles, je dirais naturellement. Et pourtant, après plusieurs années d'attente, sans aucun cycle, vous êtes tombée enceinte de façon totalement inattendue et 3 fois de suite, à très peu d'intervalle en plus. Donc vous avez 3 filles qui s'appellent Elena, Julia et Eva. Elles ont 5, 3 et 2 ans aujourd'hui. Merci d'être là pour raconter votre histoire qui est absolument dingue. Donc adolescente, vous avez eu vos premières règles un petit peu plus tard que vos amis, 15 ans. Bon là, rien d'inquiétant quoi. Hein. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont leurs règles à 15 ans. Mais c'était pas des règles comme elle, quoi. C'était pas classique.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai eu mes règles un peu plus tard que mes copines, mais en soi, ça me dérangeait pas plus que ça. Ça avait l'air d'être quelque chose d'un petit peu chiant, pas très pratique. Donc, pour le coup, ça m'a pas du tout dérangée. Mais effectivement, quand elles sont arrivées, elles étaient peut-être totalement irrégulières. J'ai jamais eu les cycles de 28 jours classiques. Je partais sur 3, 4 mois sans avoir de règles. J'étais plus surprise au final quand elles étaient là que l'inverse. Et puis, ouais, Elles étaient vraiment pas du tout abondantes.
Alors, pendant plus d'un an, vous avez donc très peu de cycles, quoi, des trucs un petit peu bizarres. Et puis, vous passez sous pilule entre 16 et 23 ans, c'est ça?
C'est ça, oui. Alors là, c'est vrai que quand on passe sous pilule, on ne l'explique pas forcément, surtout quand on est jeune et que finalement, on a eu nos règles pas très longtemps après, que c'est des règles artificielles. Et donc, du coup, là, j'étais hyper réglée. Donc, ça m'avait fait un petit peu oublier mon problème de cycle pas du tout fiable, entre guillemets. Et là, oui, j'avais mes règles, oui, à l'heure près, au jour près, selon le jour où j'arrêtais ma pilule, où je reprenais ma pilule. Donc, c'est vrai que là, à ce niveau-là, oui, aucun problème.
Aucun problème. Alors, à 23 ans, vous êtes en couple avec le futur père de vos enfants. Mm-hmm. Et là, vous décidez d'arrêter la pilule. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté votre contraceptif?
Alors, je l'ai arrêté parce que je me suis quand même souvenue que mes règles n'étaient pas non plus très régulières à l'époque. Mmh. Et puis, je m'étais dit, comme ça, je laisse du temps. C'est un peu ce qu'on préconisait à l'époque. On laisse son corps se nettoyer des hormones pendant 6 mois, 1 an. Et je me suis dit, c'est une bonne idée. Puis ça
j'imagine permet... que vous disiez, je vais quand même voir si ça revient normalement.
Exactement. C'était aussi le but, c'était de me dire, je laisse comme ça du temps tranquillement à mon corps de redémarrer, de voir ce qu'il en est par rapport à avant la prise de pilule.
Voilà, et là, quand vous arrêtez la pilule?
Le néant, pas de règles.
Pas une fois de règles, pas
rien.
Une fois, pendant combien de temps? Avant que vous consultiez, je veux dire.
J'ai été suivie quand même assez rapidement, puisque c'était une gynécologue de ville, donc je la voyais quand même assez régulièrement. Mais ça faisait quand même, au bout de 2 mois, elle commence à dire, c'est quand même bizarre que vous n'avez pas eu vos règles. Bon, ça arrive, le corps, il peut être un peu feignant. Je vais vous prescrire quelque chose pour que ça se provoque.
Voilà, donc c'était du faston, ouais. Hein, c'est ça. Elle vous fait aussi une échographie pelvienne.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça dit, tout ça?
Le du faston, pour elle, c'était sûr et certain que j'allais avoir mes règles, ça allait déclencher mes règles. Donc pour elle, là-dessus, elle n'était pas inquiète du tout. C'est plutôt quand je suis revenue la voir un mois après que ça ne s'est pas passé, qu'elle a commencé à s'inquiéter. Mais l'écho pelvienne, tout va bien.
Mais elle ne comprenait pas, quoi.
Non.
Elle est sûre d'elle, elle vous prescrit ce médicament, ouais, en se disant, c'est sûr, ça va déclencher les règles. Et là, il ne se passe rien.
Il ne se passe rien du tout.
Donc,
et,
elle vous dit quoi?
Et c'est là où je commence à m'inquiéter.
Oui, c'est ça.
Parce que je me dis, bah...
Vous voyez aussi sur son visage, j'imagine, qu'elle...
Oui, c'est ça, c'est la surprise. Vous savez, quand on note les médecins et puis qui...
Ils froncent les sourcils.
Voilà. Et là, on se dit, bah, c'est bizarre. Elle était beaucoup plus enthousiaste, mais un mois que là, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et là, ça commence un petit peu à générer dans la tête, à se dire, ouais, il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est bizarre.
Alors, bon, elle vous parle, évidemment, elle commence à parler, vu que vous n'avez pas de cycle réel de problèmes d'infertilité. Vous tentez une stimulation ovarienne pour booster votre ovulation. Et cette fois-ci, bah, tout indique que ça va fonctionner.
C'est ça. Donc, en fait, elle se dit, bon, bah, c'est pas grave, les règles, elles ne se sont pas déclenchées. On va stimuler l'ovulation. Donc, de là, en fait, on m'a demandé des courbes de température, de prendre un médicament pour stimuler. Bon, c'était pas un truc non plus hyper fort, c'était pour commencer graduellement. Et des échographies pelviennes aussi. Donc là, tout va bien. Les échographies montrent des follicules en bonne quantité, à la bonne taille par rapport à telle date du jour du cycle, entre guillemets. Enfin, tout va bien. Les compteurs sont au vert. Et même un test d'ovulation que j'avais fait moi en plus à côté était positif.
Bon.
Mais rien.
Ah, c'est fou, ça. Donc, en fait... À la limite, votre gynéco vous disait, bon, de toute façon, vous êtes sûr d'ovuler, donc soit vous aurez vos règles, soit vous êtes enceinte.
Totalement,
c'était ça. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre, quoi.
Ni l'un ni l'autre.
Alors, vous faites des examens complémentaires, prise de sang, thyroïde, équilibre alimentaire, on ne trouve rien. Et puis, vous arrêtez tout, quoi. Vous vous dites, j'en peux plus. Et vous dites, je reprendrai la PMA dans quelques années, quoi. C'est ça que vous vous disiez.
C'est ça, parce que, oui, j'avais que 23 ans. Donc, pour moi, 23 ans, ouais, j'étais pas du tout prête à passer par de la PMA. Pour moi, j'étais... Puis, je me sentais pas aussi légitime. Je sais qu'il y a des femmes qui sont plus âgées et que les places sont entre guillemets comptées. Donc, je me suis dit, bon, on verra plus tard. Te focalise pas là-dessus pour l'instant. T'es jeune, on verra. Quand tu te sentiras prête à pas avoir un traitement un peu plus important, bah, on y reviendra après.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, j'ai fait d'autres projets. Je me suis... défocaliser là-dessus.
Ouais, vous avez dit, je passe à autre chose. Quoi. Ouais. Puis 3 années passent, vous êtes persuadée évidemment que vous ne pourrez pas tomber enceinte, vous ne reprenez pas de contraception, ça fait donc 10 ans que vous n'avez pas eu de vraies règles.
Mm-mm.
C'est hallucinant. Et puis un jour, début décembre 2015, vous dites, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, là, il y a un truc qui est un peu bizarre.
Ouais, moi j'adore prendre du jus d'orange le matin, et là, ça faisait 2-3 jours, il ne passait pas le jus d'orange, je me suis dit... C'est bizarre, mais je n'ai pas tout de suite pensé du tout à la grossesse. Je me suis dit, peut-être c'est hormonal aussi, c'est peut-être mes règles ou une ovulation qui arrive et que mon corps, il ne gère pas très bien l'hormone. Mais j'ai une amie qui m'avait dit, parce que tout le monde n'était pas au courant de mon cas, entre guillemets, mais cette amie-là m'a dit, fais un test de grossesse, ça ne te coûte rien, vas-y, fais-le. Et je me souviens que ce week-end, je partais au marché de Noël, en plus en Alsace. Je me suis dit, ça ferait quand même très, très cliché que... Que mon test soit positif, j'ai plus qu'à acheter une cigogne là-bas et on est bon, quoi. Et effectivement, bah, si le test était positif.
Comment vous avez réagi en voyant ça ?
Très, très choquée. Je crois que j'en ai fait 3-4 de suite, pour être sûre. J'ai fait tout de suite une prise de sang, mais j'avais peur du faux positif. Parce que j'avais déjà eu un test d'ovulation qui était positif. Enfin, dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, ça voudrait dire que j'ai ovulé une seule fois et sur cette ovulation... Je suis tombée enceinte direct. Je me suis
donc
dit
non. Vous n'arriviez pas à y croire.
Ah non, pas du tout.
Oh, c'est fou. Il a bien fallu un moment que vous y croyiez. Vous étiez super contente.
Ah ouais.
Après la naissance de votre fille Elena, est-ce que vous espériez un retour de couche ? Est-ce que vous avez dit, allez, ça y est, après ça, quand même, ça va déclencher mes règles ?
Bah totalement. Pour moi, grossesse, dit accouchement, dit retour de couche, pour moi, c'est... Je me suis dit quand même, je vais rester dans la normalité. Mm-hmm. Et non, pas de retour de couche.
Et vous n'avez pas repris la pilule, du coup ?
Non, parce que bah, déjà, la gynécologue me conseillait d'attendre déjà d'avoir un retour de couche pour voir si mon corps, il démarrait. Après, moi, je n'étais pas contre avoir un deuxième enfant rapproché. Donc, c'était me remettre dans une situation où je n'avais pas forcément envie de repartir là-dedans. Je me suis dit, peut-être que mon corps, il a compris et que... Bah, j'aurai peut-être pas une ovulation tous les mois, mais peut-être qu'il y aura quelque chose et je vais mettre moins de temps pour pouvoir avoir mon deuxième enfant. Donc, ouais, j'ai pas repris de contraception.
Alors, les médecins n'étaient pas très optimistes, évidemment, sur le fait que vous puissiez tomber enceinte une deuxième fois. Mmh. Une année passe, toujours pas de règles. Et là, le miracle se produit une seconde fois. Vous n'avez pas de règles, donc vous n'avez pas de retard de règles. Donc, c'est compliqué pour vous de vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mais quand vous êtes aperçue, du coup, que vous étiez enceinte ?
Bah, c'est pour ça que le corps est bien fait, entre guillemets. J'ai été très, très malade enceinte. Et c'est ce qui m'a permis, finalement, à chaque fois, pour toutes les grossesses, de savoir que j'étais enceinte. Et heureusement, puisque j'avais pas de gros ventre enceinte, donc je l'aurais pas su si je n'étais pas très malade enceinte. Donc vomissement, nausée.
La gynéco qui vous a dit, vous auriez jamais, vous pourrez tomber enceinte, elle a dû halluciner.
Elle était choquée. Je crois qu'elle était autant choquée que moi, et elle m'a même dit, mais vous êtes un cas d'étude, c'est pas possible. J'en ai parlé à plein de confrères.
Elle avait jamais vu ça de sa vie.
Non, parce que surtout qu'elle avait aucune explication à me donner, et pour elle, tout, enfin, mes analyses étaient bonnes. Elle comprenait pas du tout pourquoi. Au dernier moment, il y avait un problème. Et là...
C'est ça. Normalement, on ovule 14 jours après, forcément, voilà, on a ses règles. Quoi. Alors, après la naissance de votre deuxième fille, qui s'appelle Julia, donc, vous avez encore plus espéré avoir un retour de couche que la première fois.
Oui, je me suis dit fatalement, la dernière fois, j'ai mis 3 ans à avoir une ovulation. Là, j'ai mis que 1 an, entre guillemets. Je me suis dit, ça y est, mon corps, il a capté. Ça y est, c'est bon, il comprend. Et du coup, j'ai pensé que mon corps a commencé à se mettre en marche dû aux grossesses.
Alors, 7 mois seulement après la naissance de Julia, nouvelle nausée, voilà. Parce que vous n'avez pas repris de contraceptif. Toujours en vous disant, de toute façon, là, j'ai eu 2 miracles, hein, pas 3.
C'est ça.
Et vous êtes enceinte de votre 3e fille. Alors là, c'est moins une bonne nouvelle.
Oui, parce que très clairement, celle-là, je ne l'avais pas du tout... Prévu, je voulais 3 enfants, ça là-dessus, il n'y avait pas de problème, mais je n'étais pas du tout prête à repasser par l'état de grossesse tout de suite. Je voulais profiter de mes filles. Et surtout, c'est très, très, très compliqué aussi quand on se dit, en fait, je décide de rien. Parce que les médecins, ils nous disent, reprenez pas votre pilule, parce que vous avez très peu de chances d'ovuler de toute façon. Mais en même temps, finalement, à chaque fois que j'ovulais, les rares fois, je retombe enceinte. Et en fait, je suis très heureuse de la naissance de ma fille, mais sur le coup, je ne l'ai pas choisie, cette grossesse.
Oui, c'est ça.
Et ça, même pour le monde extérieur, même le monde professionnel, quand vous dites je suis enceinte, mais je n'ai pas fait exprès, les gens ne comprennent pas. Ça va être l'occasion qu'ils comprennent, là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que je ne l'ai pas prévu et surtout, ça veut dire que je ne l'ai pas décidé. Et mon corps fait un peu ce qu'il veut.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez repris la pilule tout de suite après la naissance d'Eva, là.
Oui, là, je l'ai pris direct. Hein.
Mais vous n'avez toujours pas d'explication à cette absence de règles, aujourd'hui?
Aucune. Il y a eu des suppositions, mais pas d'explication. Il y a un lien avec l'hypermérèse que j'avais quand j'étais enceinte. Peut-être que vous avez...
L'hypermérèse, c'est-à-dire que vous avez des nausées tout le temps?
Oui, des gros vomissements, beaucoup de perte de poids, etc. Peut-être, un lien hormonal mais il n'y a pas de certitude du tout. On n'a pas pu me donner vraiment d'explication. Et c'est vrai que quand on a même 3 filles, j'ai envie, s'il leur arrive ce genre de problème, d'avoir des explications à leur donner. Parce que...
Bien sûr. Et on reçoit tout de suite le docteur Maud Pasquier. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes endocrinologue et médecin de la reproduction au centre hospitalier intercommunal de Créteil. On l'a vu, Marie n'a aucune explication. Ça arrive souvent, justement, qu'on ne trouve pas de cause et pourtant une grossesse s'installe. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu un cas comme ça?
C'est assez exceptionnel, hein. Effectivement, comme vous disiez, un cas d'école, parce que les cas d'absence de règles, ça, c'est quand même relativement fréquent, ou les cycles irréguliers, on rencontre ça tous les jours. Par contre, qu'il n'y ait jamais eu du tout de règles et 3 grossesses spontanées, ça, c'est quand même pas banal. Et donc, la plupart du temps, les examens médicaux, les bilans hormonaux, les échographies vont mettre en évidence des causes qui sont plus ou moins fréquentes. Et parfois, il y a un petit pourcentage quand même de femmes qui vont rester comme ça avec un diagnostic, enfin sans diagnostic justement, on appelle ça idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé la cause, mais c'est vraiment la minorité. Quoi. La plupart du temps, on s'oriente quand même vers une cause. Le plus fréquemment, ça sera le syndrome des ovaires polykystiques. Il peut y avoir aussi d'autres causes hormonale également, où les règles s'arrêtent parce que l'axe qui commande l'ovulation se fait pas bien, se met au repos. Et puis, il peut y avoir aussi des insuffisances ovariennes prématurées. Ça, c'est aussi assez rare et un petit peu plus grave, entre guillemets, comme diagnostic. Mais la plupart du temps, on retrouve une cause.
Vous l'avez dit, l'une des causes les plus fréquentes de l'aménorrhée, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. On a reçu une question en vidéo pour vous de Mélanie. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles. Pour ma part, je n'ai jamais eu mes règles depuis l'arrêt de ma pilule. Aujourd'hui, malgré un diagnostic SOPK, nous avons réussi à avoir des magnifiques jumelles. J'aurais une petite question. Quel traitement est recommandé pour soulager les douleurs de ce syndrome, vu qu'il ne se soigne pas? Merci à vous.
Alors, les ovaires polykystiques, est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que c'est, parce que...
Oui, alors déjà, c'est fréquent, donc c'est important d'expliquer ce que c'est. Ça concerne 10% des femmes, donc c'est pas rien. Et puis, le nom est quand même assez mal choisi, parce que quand on entend syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce qu'on retient ? On retient kyste. Et en fait, il n'y a pas de kyste dans les ovaires chez ces femmes-là. Ça a été nommé comme ça parce qu'à l'époque, au niveau des échographies, quand on a découvert ce syndrome, on voit des petits follicules en excès. Les petits follicules, ça ressemble à des microkystes. Et les follicules, c'est normal d'en avoir sur ses ovaires. On a toutes des follicules sur nos ovaires. C'est ça qui contient les ovules. Et on a tout un stock plus ou moins important de follicules sur nos ovaires. Ce stock va diminuer avec l'âge. Et puis, les dames qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, elles ont un stock plus important de follicules, et c'est pour ça que les médecins qui ont découvert ce syndrome ont parlé d'ovaires micropolykystiques, parce qu'ils ont vu ces petits follicules en excès. Et donc parfois, les femmes, quand on va leur annoncer le diagnostic, elles vont retenir une seule chose, elles vont dire j'ai des kystes sur les ovaires, donc par contre, voilà, faut pas assimiler ça à des kystes, c'est vraiment autre chose.
C'est ça.
Oui.
Et donc les douleurs, alors ?
Alors, les douleurs, c'est pas le symptôme le plus fréquent dans le syndrome des ovaires polykystiques. Souvent, ça se traduit plutôt par des troubles du cycle, donc une absence de règles ou des cycles très irréguliers, souvent des cycles un peu longs, 45-60 jours. Et puis, ça peut se traduire aussi par de l'acné, par une hyperpilosité. Ça va être ça, les symptômes les plus fréquents, les plus évocateurs. Les douleurs, ça peut arriver, effectivement, comme je disais, un peu moins fréquemment. Et pour soulager ça, on peut être amené à prescrire une pilule, parce que ça va mettre les ovaires au repos, ça va permettre de mettre un petit peu à plat tout ce qui est déséquilibre hormonaux. Donc, c'est recommandé dans ce syndrome, quand il n'y a pas de désir de grossesse, de prendre une contraception œstroprogestative. Et ça peut également soulager les autres symptômes que sont l'acné, l'hyperpilosité. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toutes les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques n'ont pas toutes les mêmes symptômes. Donc, à chaque cas, son propre traitement et il faudra adapter aux plaintes de chacune.
Tiffaine nous écrit « Sans règles depuis toujours, j'ai eu un bébé après 10 ans de PMA. Depuis l'accouchement, j'ai des règles régulières et je dois porter un stérilet. » Elle vous demande une explication.
Alors, merci Tiffaine. Donc, effectivement, c'est assez perturbant de ne pas avoir de règles et puis de voir que ça peut revenir après une grossesse. C'est un peu ce qu'attendait Marine dans son témoignage. Elle pensait que ça allait revenir après. Ça, c'est assez... ça arrive fréquemment comme ça, qu'il y ait des troubles et puis que ça disparaisse après une première grossesse.
En fait, la grossesse soigne...
On ne l'explique pas très bien. En fait, il faut se dire que la grossesse est quand même plein de bouleversements hormonaux. Plein de bouleversements métaboliques aussi, au niveau du poids, au niveau de la répartition des graisses, etc. C'est aussi probablement des bouleversements psychologiques. Donc il y a peut-être toutes ces causes-là qui sont intriquées pour expliquer qu'à un moment donné, ça puisse se remettre en place après la grossesse, mais on n'a pas une seule explication.
Tout à l'heure, vous disiez, on doit être humble. Vous disiez, vous disiez, en fait, c'est ça.
Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Alors, il y a des choses qu'on peut effectivement expliquer de façon assez certaine. Et puis, on est confronté tous les jours à des cas un petit peu exceptionnels comme celui-là. Donc, bien sûr, on va faire les examens pour essayer d'orienter. Mais on a des surprises dans un cas comme dans un autre. Parfois, on est très confiant et puis malheureusement, la grossesse ne vient pas. Ou inversement, c'est pas rare qu'on dise à des femmes, pour vous, le pronostic est très mauvais. Et puis que finalement, on ait des bonnes surprises. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on...
Tout est
message.
Possible.
Oui, bien sûr.
Félicie vous demande à partir de quand il faut consulter quand on n'a pas de règles. Est-ce différent quand on n'en a jamais eu versus quand on n'en a plus à l'arrêt d'une contraception ?
Oui, alors déjà, quand on n'a pas de règles après 15 ans, c'est ce qu'on appelle aménorrhée primaire, c'est le fait de pas jamais avoir eu de cycle. Là, il faut consulter, donc au-delà de 15 ans. Et puis après, il faut observer aussi la régularité des cycles. C'est-à-dire que c'est normal que dans les premières années, après la mise en place de la puberté, les règles ne soient pas tout à fait régulières. On se laisse 1 à 3 ans pour observer ce qui se passe sans être alarmé si ce n'est pas vraiment très régulier. Ça, c'est normal. Par contre, au-delà de 3 ans, pour être un peu synthétique, on va se dire qu'il faut que les cycles soient plus de 21 jours et de moins de 35 jours pour parler de cycles réguliers. Et il faut avoir au moins 8 fois ses règles dans l'année.
Qui vous demande si le syndrome des ovaires polykystiques est un syndrome héréditaire et si ça représente un facteur de risque supplémentaire de développer un cancer des ovaires.
Alors, ça n'a pas d'impact sur le cancer des ovaires, tant mieux, c'est déjà rassurant. Sur le côté héréditaire, c'est pas très clair. En fait, il y a des gènes de prédisposition qui ont été mis en évidence, mais ça concerne que moins de 10% des cas des ovaires polykystiques. Donc, il faut retenir qu'en fait, c'est quand même, dans la majorité des cas, pas héréditaire. Et il y a quand même des familles où il y a des ovaires polykystiques, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc, ce n'est pas parce qu'on en a que forcément ces enfants vont hériter de ça.
OK. Gladys vous dit, j'ai entendu dire que le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, réduisait de lui-même avec l'âge et qu'il pouvait être plus facile pour les femmes atteintes de tomber enceinte plus tard.
Ah oui, j'ai entendu ça.
Est-ce que c'est vrai? Et comment l'expliquer?
Alors, il y a deux choses. Il faut retenir que toutes les femmes ont un stock de follicules sur leurs ovaires à la naissance et que ce stock, il va faire que baisser jusqu'à la ménopause où le stock, il est épuisé. Ouais. Et donc, les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, elles sont comme toutes les autres, elles vont aussi perdre leurs follicules avec le temps. Et comme elles, à la base, elles en ont trop, au final, on va avoir l'impression que ça s'améliore avec le temps juste parce qu'elles en ont perdu et qu'il y en a un peu moins en échographie sur les ovaires. Donc, effectivement, on a l'impression que ça se corrige avec l'âge. Simplement, ce n'est pas forcément plus simple d'être enceinte. Tout dépend si elles ont des cycles réguliers, si elles ovulent ou pas. Donc, si elles ont des cycles réguliers qui se remettent en place, oui, ça sera plus simple. Mais il faut faire attention au phénomène de l'âge, qui est très important, parce qu'avec l'âge, la qualité de nos ovules baisse. Et donc, il ne faut pas se dire, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, je ne suis pas hyper pressée, je vais peut-être attendre 4-5 ans pour mettre en place mon projet de grossesse, parce que ça sera peut-être plus facile. Mmh. Parce que les effets négatifs de l'âge vont contrebalancer les effets positifs de la perte des follicules. Et l'âge, c'est super important pour la fertilité.
Mais est-ce que, du coup, comme elles ont plus de follicules, celles qui ont 25-30 ans, elles ont plus de chances de tomber enceinte?
Non, pas forcément, parce qu'en fait, elles ont un stock plus important, mais le problème, c'est que leurs follicules, ils ne maturent pas bien. Ah. Donc, pour que ça se fasse bien, il faut qu'il y en ait un de ces follicules qui grossisse chaque mois et qui amène une ovulation. Mmh. Et le problème chez ces femmes, c'est qu'il y a un excès d'hormones mâles d'androgènes qui bloque cette maturation des follicules. Donc, il n'y a pas d'ovulation la plupart du temps qui se passe. Et si on n'ovule pas, les chances de grossesse sont quand même très... Ou si on ovule de façon anarchique, sont basses. Donc, en fait, le stock, c'est bien, mais il faut ovuler.
Ouais, c'est ça. Mm-mm.
Il y a une des maquilleuses de cette émission qui s'appelle Leslie m'a suggéré une très bonne question. C'est une jeune fille qui n'aurait pas ses règles jusqu'à 15, 16 ans, etc. Est-ce qu'elle a néanmoins sa puberté normalement, à un âge habituel, ou le fait de ne pas avoir ses règles bloque l'ensemble?
Alors, la puberté, ça se termine plutôt par les règles. En fait, ça se met en place d'abord par la pilosité, le développement des seins, et dans la foulée, donc quelques années après, il doit y avoir les règles. Donc, si les règles ne viennent pas, mais que la puberté a commencé normalement, il faut aller chercher des causes qui ne seront pas les mêmes que quand il n'y a pas eu du tout de début de puberté. Donc, il y a plusieurs diagnostics, et ça dépend s'il y a eu un début ou pas de puberté. Mmh.
Il peut ne pas y avoir de début de puberté. Là, oui, dans ce cas, on va vous voir à partir de quel âge, du coup?
Dans les pubertés tardives, faut, au-delà de 2-3 ans après l'âge théorique de démarche de la puberté, il faut faire des bilans. Et après, on peut retrouver des causes génétiques, on peut retrouver des causes hormonales. Donc, il faut se pencher sur le cas, oui. Okay.
Pia vous dit, j'ai eu une absence de règles suite à un traitement contre un cancer quand j'étais très jeune. Est-ce que ça veut forcément dire que je ne pourrais pas tomber enceinte naturellement?
Ça, c'est un cas, qui est compliqué parce que y a des traitements comme des chimiothérapies qui peuvent être très toxiques sur les ovaires. Mais il y a plusieurs types de chimiothérapies. Il y en a qui sont plus ou moins toxiques, justement. Et donc, tout dépend un peu du traitement qu'elle a eu. À l'époque, peut-être qu'on ne faisait pas ce qu'on fait maintenant. Quand une femme va avoir un traitement, on sait qu'il va potentiellement atteindre la fertilité, on va préserver sa fertilité, soit en congelant des ovocytes, congelant un petit morceau d'ovaire, pour se mettre à l'abri de ces phénomènes-là. Et il y a des chimiothérapies qui peuvent avoir des effets transitoires sur la fertilité et on récupère après. Et puis d'autres qui vont avoir des effets sur le long terme et pas de potentiel derrière. Donc tout dépend un peu si elle a récupéré des cycles ou pas après son traitement.
Et dans ce cas-là, elle vient vous voir et vient consulter un endocrinologue?
Alors, l'idéal, c'est de le faire avant. En général, maintenant, les cancérologues, ils sont au courant, ils vont tout de suite en parler aux patientes, puis les adresser dans un centre d'AMP pour savoir si on a le temps aussi de mettre en place cette préservation de fertilité, parce que parfois, la maladie est tellement grave qu'on n'a pas forcément le temps de le faire, mais si on peut, on va le faire. Et puis, après, oui, c'est bien de consulter des gynécos ou centre d'AMP pour savoir où on en est, et est-ce qu'il y a eu une altération définitive, transitoire de cette fertilité, en fait.
Alors, Evie qui vous demande, comment se fait-il que les troubles du comportement alimentaire stoppent les règles et j'ai repris un poids normal depuis, pourtant elles ne reviennent pas? Elle vous demande pourquoi.
Alors, il y a deux choses aussi. Il y a le poids, puis il y a aussi la balance entre la masse grasse et la masse maigre. Parce que parfois, on a un poids normal Et on s'étonne de ne pas avoir ces règles, mais c'est un profil un peu particulier de jeunes femmes, souvent jeunes femmes, qui vont être soit très sportives, soit qui vont faire des restrictions sur les graisses, et du coup qui ont une masse musculaire qui est plus importante que leur masse grasse. Et ça, ça envoie un signal au corps qui dit attention, là, il y a un déséquilibre qui se fait, parce que nous, les femmes, on est censé avoir plus de masse grasse que de masse maigre. Et donc, quand ce n'est pas le cas, eh bien, l'hypophyse, qui est une petite glande dans le cerveau qui va commander les ovaires, va dire attention, là, il n'y a pas assez de masse grasse pour mettre en place une grossesse. On stoppe l'ovulation, on stoppe les règles, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec une aménorrhée, alors qu'on peut avoir effectivement un poids normal, mais voilà, une masse grasse qui n'est pas assez importante.
Les grandes sportives, c'est quelque chose d'assez fréquent.
Assez fréquent, ouais. Oui, effectivement.
Oui, ça m'est arrivé.
Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être transitoire aussi, parfois en réintroduisant un petit peu plus de lipides dans son alimentation, en freinant un petit peu le sport.
Un peu de fromage, quoi.
Ça peut revenir, mais c'est pas...
Oui, c'est pour ça que ça ne m'est jamais arrivé.
Mais oui, oui, donc c'est rarement définitif, au contraire, il faut savoir qu'on peut rééquilibrer ça, mais ça peut mettre un petit peu de temps, c'est pas parce qu'on a repris un poids normal, réintroduit une alimentation normale, que dans le mois qui suit, on peut avoir ses règles, ça peut être un peu plus long.
Alors Nalini vous dit, après des années d'essai bébé, on vient de me diagnostiquer une ménopause précoce, coup dur, y a-t-il d'autres options que le don d'ovocytes ?
Alors, tout dépend de l'âge et puis de la cause. Il y a des causes génétiques aux ménopauses précoces. Alors, maintenant, on parle plutôt d'insuffisance ovarienne prématurée, parce que c'est vrai que le terme de ménopause précoce, psychologiquement, c'est déjà assez difficile.
Ça peut arriver à quel âge, d'ailleurs, cette...
Ça peut arriver à n'importe quel âge, en fait. Alors, plus on est jeune, plus c'est rare. Ouais. Donc, c'est très rare. C'est 1% des femmes de moins de 40 ans, 1 pour 1000 des femmes de moins de 30 ans. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et le terme de ménopause précoce, il n'est pas très adapté non plus, parce que ménopause, c'est définitif, alors que ces femmes qui ont des insuffisances ovariennes, parfois, ça peut être fluctuant. Elles peuvent avoir un dysfonctionnement des ovaires, comme ça, pendant plusieurs années, et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, une reprise du fonctionnement. Donc, il faut observer ce qui se passe. Plus on est jeune, plus il y a de chances, justement, que ça soit fluctuant. Mais malheureusement, si le diagnostic a été posé, qu'on a fait plusieurs bilans et qu'il n'y a plus de règles, le don d'ovocytes reste souvent l'option la plus probable pour être enceinte. Quoi.
Ma fille essaye de tomber enceinte et elle a un adénome hypophysaire. Est-ce que ça peut compliquer son projet de grossesse, vous demande Claudine?
Alors déjà, qu'est-ce que c'est un adénome hypophysaire?
Oui,
c'est...
rappelez, quand même. Qui ne l'ont pas en tête.
Oui, parce que nous, on sait, mais...
C'est une petite tumeur bénigne au niveau de l'hypophyse, cette petite glande là dans le cerveau qui commande à la fois les ovaires, mais aussi la thyroïde et plein d'autres choses. Donc, le plus fréquent, c'est un adénome à prolactine, c'est-à-dire qu'il produit trop d'hormones prolactine. La prolactine est très utile pendant la grossesse parce que c'est elle qui fait produire le lait. Donc, on en a besoin. Mais quand on en a trop en dehors de la grossesse, eh bien, ça peut bloquer l'ovulation. Et donc, effectivement, ça peut compliquer le projet de grossesse si on a des cycles irréguliers ou plus de cycles du tout. Mais il y a des traitements très efficaces qui vont faire réduire ce taux et qui vont rétablir des ovulations assez rapidement. Donc, généralement, ça complique de façon transitoire. Et puis, avec un traitement adapté, ça récupère.
Merci docteur Maude Pasquier et merci infiniment à Marine d'avoir accepté de raconter son histoire incroyable, je vous l'avais dit. Histoire qu'elle a racontée bien sûr à Agathe Le Caron. On se retrouve nous demain, 9h25, 9h28 sur France 2, quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux et bien sûr n'importe quand en podcast, le podcast des maternelles. Ciao tout le monde.